Je pense que nous sommes déjà habitués depuis notre enfance à voir dans nos villages, dans nos villes, presque partout, des croix, des crucifix. Et ça nous accompagne, surtout sur le vieux continent où la chrétienté, le christianisme est bien fondé depuis des siècles. On a, je dirais même, très souvent, on a apprivoisé ce symbole, ce signe. Dans mon pays natal, la croix, elle est vraiment très présente. Et je me souviens des histoires de mes ancêtres ou même de la génération de mes parents où vraiment il fallait même se battre, se faire maltraiter, persécuter parce que les gens voulaient défendre la croix. C'est vrai que quand j'étais jeune, la croix symbolisait quelque chose de très précieux et je la portais avec beaucoup de fierté à l'école. Et j'avais une croix comme ça et je la portais. Quand je suis venu ici en 94, j'étais même un peu étonné à voir que c'est les prêtres qui portent les petites croix souvent. Mais pour au temps de mon lycée, c'était quand même quelque chose de très important. J'ai eu quelques remarques, mais c'était quand même, pour moi, j'étais étonné que je n'ai pas été vraiment persécuté. Donc, je voulais porter cette croix, pas comme un symbole d'une supériorité, mais c'était pour moi, je voulais dire, aux autres, à mes professeurs, aux gens qui n'étaient pas toujours très favorables, ou même parfois c'était vraiment des ennemis de l'Évangile, je voulais leur dire, et moi, j'appartiens à Jésus, donc je suis libre. Et pour ma génération, la croix était toujours un symbole de la liberté. Bien sûr, il y a aussi des superstitions, des malentendus. Très souvent, quand je voyage pour aller voir mes parents, vous savez, les routes en Pologne sont dans aussi mauvais état que les routes en Belgique maintenant. Donc, je ne parle pas des autoroutes, mais des routes nationales ne sont pas dans très bon état. On a beaucoup de voitures et malheureusement, il y a beaucoup d'accidents de voitures, jusqu'à 10 000 morts par an. Donc, et je ne sais pas pourquoi, il y a quand même une tradition qui est née il y a quelques années. Là où il y avait un accident, il y avait des morts, la famille, au bord de la route, met une croix, une petite croix. C'est bien. Et ce n'est pas tout à fait bien, parce qu'on se dit la croix, c'est le malheur. La croix, c'est une tragédie. Pas nécessairement. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, en étant tout jeune prêtre, qu'il y a même un très grand malentendu dans la tradition populaire en Pologne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens disent qu'on ne peut pas donner une croix comme cadeau. Même une petite croix qu'on offre à l'enfant pour son baptême, le parrain ou la reine, une petite croix très souvent en or, il faut que les parents de l'enfant donnent un petit sou en échange, parce que si c'est un cadeau gratuit, ça, dans la tête des gens, ça signifie un malheur. Voilà. Vous voyez, cette croix qui est présente dans notre vie, dans notre civilisation, dans notre depuis des siècles, je dirais même dès le début de notre civilisation, quand même, les gens n'arrivent pas toujours à comprendre qu'est-ce que ça veut dire un crucifix. Et quand je regarde une croix, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit par ce symbole? Quel message il veut me passer? Il veut mettre dans mon cœur? La croix, la liberté, l'amour. Dieu, il avait tellement d'amour, il a toujours tellement d'amour pour nous, qu'il s'est décidé à donner son Fils unique. Il a tant aimé le monde, ça veut dire nous, les hommes, qu'il a donné son Fils, son propre Fils, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Voici la première phrase de l'évangile de Saint Jean, qui nous donne déjà une grande lumière, qui nous donne déjà vraiment une grande expérience de la paix si nous accueillons la croix avec cette parole de Dieu. Afin que quiconque qui croit en lui ne se perde pas. On peut se perdre dans la vie, bien sûr. Je pense que dans notre groupe, chacun est prêt à dire « Bah oui, je me suis perdu », et même plusieurs fois. Et ça, je peux vous dire, en tant que prêtre, j'écoute beaucoup de gens qui parlent de leur propre vie, et très souvent, je rencontre des personnes qui veulent rencontrer Dieu dans le signe de son pardon. Bon, ici en Belgique, je confesse relativement moins de personnes, mais je vous dis que quand même, j'ai fait beaucoup de confessions aussi. Et quand j'étais prêtre à Varsovie, c'était des confessions très massives. Et il fallait même une grande discipline, surtout avant Pâques, c'était toute une grande logistique. Parce que dans ma paroisse, on comptait plus ou moins pour savoir comment se préparer pour l'année prochaine. Chaque temps pascal, on commençait nos confessions toujours mercredi soir. Et à partir de mercredi soir, on continuait presque sans arrêt, sans cesse, jusqu'au dimanche matin. Je devrais toujours organiser, entre guillemets, une vingtaine de prêtres. Donc, on le faisait par équipe de 8, de 7, de 8. Il fallait s'échanger parce qu'on n'arrive pas à écouter les confessions plus que 3 heures. On commence à être un peu ailleurs. Et donc, il fallait faire attention à ne pas prolonger pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc, pendant une journée, il fallait accueillir à peu près 450-500 confessions par prêtre. Donc voilà, la vitesse de TGV. Et souvent, parfois, pas très souvent, mais parfois, il arrive d'accueillir les gens qui disent « Mais bon, moi, je n'ai pas de péché. Ben, vraiment, je tuais personne, je ne volais pas la banque, ni personne. Non, je n'ai pas de péché. Ben, es-tu sûr vraiment que tu n'as jamais tué quelqu'un ?» Ben, pas. Il ne faut pas tout de suite penser que tuer, ça veut dire tirer avec un fusil ou mettre le couteau dans le cœur de l'autre. Oui, on peut faire aussi bien des dégâts sans faire un geste. Il suffit une phrase pour tuer quelqu'un. Il suffit un geste, un oubli. Il suffit un bon mensonge pour tuer quelqu'un, pour voler l'espérance. Ah oui, je veux mieux perdre 3 millions d'euros au lieu de perdre mon espoir pour des années. Donc, il est évident, comme nous dit Paul l'apôtre dans son épître aux Romains, tous ont péché. Et ceux qui ont péché, ça veut dire tous, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, le mal. Oui, dans notre monde, on se dit il n'y a plus de mal, il n'y a plus de bien. Ce qui est bon, ce qui est mauvais, c'est les journalistes, parfois les parlements qui décident des commissions internationales qui vont se mettre à réfléchir, à dire oui, il y a 50 ans, c'était une maladie, mais aujourd'hui, c'est une bénédiction. Donc, relativiser tout, c'est une grande tragédie de notre époque. Ce matin, j'écoutais même à la télévision un interview avec un professeur de la médecine qui est spécialiste, un grand spécialiste de la méthode in vitro. C'était à la télévision polonaise. Donc ce médecin, il a dit « Oh, quel bonheur! Enfin, on a donné le prix Nobel au père de la méthode in vitro, Robert Edwards, qui a inventé cette méthode. Quelle joie, quel bonheur pour le monde. Parce qu'on a 3 500 000 enfants qui sont nés grâce à cette méthode. Donc le prix de Nobel, c'est le prix de Nobel, le sens, si je me souviens bien, de ce prix, c'est donner aux personnes, aux scientifiques, médecins, écrivains, qui protègent la paix, qui protègent la dignité humaine. Et le journaliste qui interviewait ce professeur, quand même, il a posé la question, mais vous savez, monsieur, dans le milieu de l'Église catholique, on s'oppose à cette méthode. Ah, mais c'est pas possible, comment peut-on nous opposer? Je dirais même que à l'Ancien Testament, Dieu envoyait les anges, et même il a envoyé un ange à Marie pour qu'elle enfante, ou la vieille Élisabeth enfante aussi. Donc nous, on est des anges. Ah, je dis, quel parallèle, il faut être quand même malin. Il a dit, en plus, ne pensez pas, c'est pas possible que la commission, le comité des prix de Nobel donnerait ce prix à quelqu'un qui ne fait pas du bien. Qui ne fait pas du bien. Je dis, mais il était vraiment malin pour ne pas dire la vérité, qui est dure, qui est très dure, parce qu'il ne faut pas être croyant, il suffit d'être un bon médecin pour savoir que 3 500 000 enfants nés avec cette méthode, ça veut dire 18 millions d'enfants tués. 18 millions. Il y a 5 morts pour un né. C'est en moyenne. Hein. C'est ça la méthode in vitro. Hein. Et je connais des médecins, je connais un médecin-chef de la plus grande clinique à Varsovie, une clinique chrétienne catholique où on ne fait pas ni d'avortement ni d'in vitro. Et il a dit, mais Yarek, c'est comme ça la méthode, ça fonctionne. Et on est. Bon, à l'époque, c'était encore plus, maintenant, il y a moins de morts. À l'époque, c'était 15, 20 pour avoir un enfant né, maintenant c'est entre 3 et 7. Et voilà, mais on a proclamé ça comme une grande réussite de l'humanité et de la dignité humaine, ce qui est, voilà, une icône triste et malheureuse de notre époque. Donc, personne sur la terre parmi nous les hommes ne peut dire « je n'ai jamais péché ». Non, c'est pas possible. Et même nous voyons quelles sont les conséquences du péché. La tristesse, la maladie, la solitude, toutes les souffrances possibles, toutes les catastrophes provoquées par une mauvaise foi des gens, ce sont directement les conséquences du mal, les conséquences du péché. Parce que le mal est une réalité personnelle, intelligente. C'est un lieu où il y a des pensées, des idées. Et c'est une réalité spirituelle absolument présente. Et une fois accueillie par les hommes sur la terre, cette réalité a démoli notre nature, a corrompu notre nature. Quand je parle avec les petits-enfants de la première communion, je parle de la création du monde, du péché originel, du péché biblique, j'essaye de leur donner une image du monde où il n'y a pas de mal, où le mal n'existe pas, n'est jamais accueilli par un libre choix des hommes. Donc, si dans notre nature le mal n'était jamais connu, il n'y avait pas de guêpes qui nous embêtent. Non, les guêpes, ce seraient des mouches en couleur qui donnaient du parfum aux filles, par exemple. Aussi bien le moustique, rouge, bleu, vert, qui faisait des bons bruits et qui portait aussi du bon parfum. Le loup, oui, des animaux qui étaient donnés aux hommes pour les aider dans le travail. Donc, des tremblements de terre, pas possible. Des catastrophes naturelles impensables, parce que la nature ne connaîtrait jamais le mal. Et le mal, ce sont nos bactéries qui ne nous aident pas, qui nous tuent, ce sont des virus qui sont aussi une création de Dieu. Tout ce qui est dans la nature, c'est créé par Dieu. Mais parce que le mal est entré dans notre nature, cette création de Dieu n'est pas toujours loyale. Elles ne fonctionnent pas toujours selon la volonté du Créateur. Donc ne dites jamais que Dieu a voulu que nous soyons malades. Ou ne dites jamais à vos enfants, « Eh ben voilà, tu t'es pas bien habillé et maintenant Dieu t'a puni, tu as un rhume. » Non, non, non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas un vrai message de l'Évangile. Si tu as un rhume, c'est parce qu'il y a des virus, c'est parce que tu n'étais pas prudent ou prudente, ça c'est vrai. Mais c'est à cause du mal que tu souffres, c'est pas à cause de Dieu. C'est pas possible. Alors qu'est-ce que Dieu a fait alors? Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce qu'il connaît, il connaît les secrets de notre cœur, il connaît la vie de chacun de nous, il sait bien que l'homme qui tombe dans le mal, l'homme qui n'est pas, qui ne veut pas reconnaître sa faiblesse, mais qui vit dans cette faiblesse, plus tôt ou plus tard, devient un esclave. Jésus nous explique très bien la nature du mal, du péché. Il nous dit, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui nous fatigue, ce qui nous blesse. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les desseins pervers. Débauche, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté russe, envie, diffamation, orgueil, déraison, égoïsme. Tout ce qui est mauvais sort du dedans de l'homme, de notre cœur, parce que nous sommes capables à acquérir le mal, et nous le faisons malheureusement. Et quelle est la plus grande conséquence du péché, à part les souffrances? C'est bien sûr la mort. La mort. Dieu n'est pas créé pour mourir, non. L'homme n'est pas destiné pour mourir. La mort n'est pas notre vocation. La mort, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la conséquence du péché, la plus grave, la plus lourde, la plus injuste. Et Dieu n'accepte pas la mort de ses enfants. Il ne pouvait pas accepter que les hommes meurent à cause de la mort, à cause du mal. Que les hommes disparaissent à cause du mal. Donc, il s'engage. Il entre dans notre histoire. Il devient un vrai homme. Dieu accepte en lui-même toute notre existence avec toutes les conditions. Je vais attendre parce que sinon c'est stressant un peu. Pas pour moi, bien sûr. Voilà. Ben voilà, une conséquence, un résultat de la faiblesse, ça ne fonctionne pas toujours comme on veut, et on n'arrive pas à contrôler ces petits machins. Ça nous arrive à nous tous, voilà, ça nous arrive à nous tous, et ce n'est pas notre fierté. Alors Dieu entre dans ma vie, eh bien, il s'engage tellement que je peux être sûr. Dieu, il vit toutes les conditions que vous vivez, que moi je vis. Il entre dans mon existence. Il passe par toute l'existence humaine parce qu'il veut vivre en tant qu'homme, avec toutes les conséquences de la vie humaine, avec toutes les conditions de la vie humaine, sauf une seule, le péché. Mais ça ne facilite pas sa démarche parce qu'il entre dans cette réalité de la vie humaine, il devient un homme. Donc, il entre dans un monde où le péché est omniprésent, où la faiblesse est omniprésente, où les hommes ne sont pas vraiment libres. Et lui, il doit se promener dans ce monde pour accomplir la volonté du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est non seulement la vie qu'il accueille, mais aussi les conséquences de notre faiblesse. Donc, il donne sa vie. Est-ce qu'il pouvait faire ça autrement? Certainement, parce que Dieu, il est tout-puissant. Il pouvait bien nous sauver en devenant une planète ou en s'incarnant dans un animal. Je ne sais pas, il pouvait faire ça autrement. Mais il voulait entrer dans la réalité la plus touchée par le mal. Donc, il voulait absolument nous sauver dans une existence humaine, dans notre vie. Parce que la vie humaine, avec la mort qui nous menace, la vie humaine est la plus touchée par le mal et la plus affaiblie par cette réalité du mal. Est-ce qu'on peut suivre cet exemple de Jésus? Est-ce qu'on peut accueillir ce qu'il a fait pour moi? Parce que il est vraiment mort sur la croix et il l'a fait pour moi et pour chacun de vous personnellement. Donc, quand je parle avec les parents en Pologne qui ont toujours peur à recevoir comme cadeau du baptême la petite croix dorée et qui préparent toujours 50 saints pour payer, je dis, mais ça ne vaut pas la peine, vous l'avez déjà fait, vous avez donné une croix à votre enfant. Vous lui avez offert une croix gratuitement et vous l'avez fait aujourd'hui. Comment ? Au moment du baptême ? Ah ben oui, au moment du baptême, même juste au début, vous avez fait une petite croix sur la tête de votre enfant. Voilà, c'est fait. Votre enfant a reçu la croix, et en plus de votre propre main. Et c'est formidable. Parce que, comme ça, votre enfant est déjà inscrit d'une façon physique sur la liste de sauvés. Oui, maintenant j'ai fait des grandes recherches dans des registres de baptême de mes paroisses, donc je remonte jusqu'au XVIe siècle. Et j'ouvre de vieux livres et je dis, voilà la liste des sauvés, une liste des personnes sauvées, qui sont sauvées d'une façon historique. Et les autres qui ne sont pas baptisés, bien sûr Dieu partage avec une générosité qui ne sera jamais compris par nous les hommes. Il partage son amour à tous les enfants, pour tous les enfants. Mais il est évident que son amour doit être acquis. Et l'amour le plus grand que nous pouvons avoir, c'est justement faire comme Jésus a fait, donner ma vie pour les autres. Mais nous connaissons des milliers de témoignages, des exemples, des personnes qui ont fait ça d'une façon concrète, comme le père Maximilien Kolbe, qui s'est présenté volontiers pour mourir, pour être exécuté, martyrisé, parce qu'il voulait remplacer un papa des enfants qui était condamné à mort. Et l'officier des SS, qui était stupéfié par une telle démarche de prêtre, finalement il a accepté cet échange. Donc il a libéré le prisonnier, le papa de famille, qui a vécu jusqu'à ses 80 quelques ans. Et père Kolbe, il a donné sa vie concrètement pour un frère. Mais je pense que beaucoup plus souvent, nous sommes invités à offrir notre vie d'une façon un peu plus douce, mais parfois d'une façon qui demande une grande persévérance. Je raconte cette histoire parce qu'elle m'a très fort touché. Et je la donne très souvent en parlant de la croix de Jésus. Et quand j'avais 16-17 ans, on attrape un beau virus de l'amour. Donc on tombe amoureux très souvent pendant ce temps de lycée. Et ça m'est arrivé aussi. J'avais une très gentille amie qui s'appelait Marguerite. Et donc j'étais émerveillé. C'était presque tout le bonheur du monde que je pouvais voir, rencontrer, parler, entendre, prendre la main, passer le temps, la soirée à lire. C'était vraiment beau. Mais elle avait quand même une situation assez dure à la maison, parce que son père, il était alcoolique, mais vraiment aigu, depuis toujours. Il buvait sans cesse. Il vendait des choses qui étaient à la maison. Et parfois, il était bien sûr agressif. Oh là là, quel malheur. Et il terrorisait son entourage. Et à un moment donné, il a commencé à boire sans s'arrêter. Et finalement, j'étais quand même très, 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 très énervé, même fâché contre lui. Et donc, je ne voulais pas parler, parce que je voyais que Gauchia, Marguerite, elle souffre énormément. Sa maman s'efforçait pour que la maison fonctionne. Il y avait encore une sœur plus grande, une petite sœur. Donc, la pauvre femme qui faisait tout pour protéger les enfants, en même temps, il y avait ce monsieur qui démolissait tout. Mais un jour, j'étais vraiment énervé, j'ai parlé à ma mère, j'ai dit, maman, mais quand même, c'est illogique. Hein. La maman de Gauchia, elle a droit, elle devait le faire. Quoi ? Mais ouvrir la porte, faire un gros coup de pied par derrière de ce monsieur, fermer la porte et ne laisser jamais rentrer. Parce que c'est pas normal, c'est pas juste. C'est vraiment, il va démolir. Je le faisais parce que j'aimais beaucoup Gauchia, j'aimais aussi sa maman, sa famille. Je le faisais avec une grande justice, un sens de la justice d'un jeune homme. Et ma mère, elle a dit, Yarek, non, 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 c'est pas tellement facile, tu sais, parce que la maman de Gauchia, bien sûr, elle aime énormément ses filles. Mais tu sais, monsieur, c'est son mari, hein, et je sais qu'elle l'aime aussi. Mais comment elle peut l'aimer? Ah, bien sûr, c'est difficile, hein, mais je peux te dire un petit secret. Quand je rentre de mon bureau, en Pologne, à l'époque, on commençait le travail à 7h du matin, à 6h du matin, on rentrait à 15h. Donc, quand je rentre de mon bureau, je passe toujours, tu sais, à côté de notre église paroissiale, et j'y entre presque tous les jours. Il est 15h. Donc, l'église est toujours un peu silencieuse, sobre. Et donc, je prie pendant quelques minutes pour ton papa, ton frère, toi, pour toute la famille. Et tu sais, chaque jour, quand je rentre dans l'église à 15h, chaque jour, je vois la maman de Gosha. Elle est à genoux, devant cette icône, cette belle icône que nous avons, qui représente Dieu miséricordieux. Elle prie dans le silence, mais quand je vois sa prière, je n'ai aucun doute, je sais qu'elle prie pour son mari. Tu sais donc, elle l'aime. Elle prie pour son mari, et ça fait des années qu'elle le fait tous les jours. Donc, elle donne sa vie, elle donne tout par amour pour son mari et pour ses enfants. Et tu vois, c'est comme ça qu'elle arrive à tout supporter. Donc, voilà, je me suis dit, peut-être elle a raison, mais ça ne m'a pas tellement convaincu, hein. Et paradoxalement, il ne fallait pas attendre très très longtemps. Justement, quelques mois après cette discussion avec ma mère, Gosha m'a dit, Yare, quelle histoire, hein. Tu sais, mon papa, il s'est présenté volontiers, pour la première fois dans sa vie, il s'est présenté volontiers pour se faire soigner. Donc, il est allé dans une clinique, d'abord pour se détoxiquer, et puis il va passer une thérapie de je ne sais pas combien de semaines. Donc, il veut arrêter de boire. Il l'a dit devant nous. Donc, il nous a même demandé le pardon, tout. Il a fait ses valises, il est allé pour se faire soigner. Ah, quelle joie! Ben, j'étais aussi 13 heures. Et il est rentré, c'est vrai, ben, ça a duré bien quelques semaines. Et il ne buvait plus. Il était comme ça, souriant, parlant, tous les jours. Ça a duré 6 mois, 10 mois, toute une année. Et à un moment donné, quand même, il commençait à se sentir mal. Il a eu des migraines. On pensait, bah oui, après des années et des années d'alcoolisme aigu, c'est normal qu'il n'est pas en bonne santé. Mais quand même, on lui a fait des examens et on a découvert une tumeur au cerveau et au poumon. Et c'était déjà loin. On ne savait plus le soigner d'une façon efficace. Et quelques mois après, le monsieur... Il est mort, mais la veillée de sa mort, il a absolument demandé qu'un prêtre vienne le voir. Il a reçu tous les sacrements, il a reçu le pardon de Dieu, le corps du Christ, une onction des malades. Et en plus, il a demandé le pardon de toutes les personnes qu'il a blessées pendant sa vie. Donc vous voyez, c'est aussi une façon de vivre tout à fait concrètement le mystère de la croix. C'est une façon d'appliquer le message de la croix, de donner sa vie, pas par un geste, pas par un instant. Parfois Dieu nous donne un instant, un appel, comme il l'a fait avec le père Maximilien Kolbe ou tous les grands héros, des personnes héroïques, des personnes d'une grande foi qui n'osaient pas à donner leur vie, comme ça, par un instant. Mais il y a aussi des millions de personnes qui donnent leur vie avec patience, persévérance, parce que cette personne prie et pardonne pendant des années, jour après jour. Et c'est aussi le mystère de la croix. Jésus, il a vécu ça au moment de sa mort, à l'heure de son agonie. D'une façon absolument libre, il a accepté la volonté du Père. Mais, comme résultat de cette volonté, on l'a arrêté, flagellé, vraiment maltraité. Il était couvert des blessures, il saignait partout. Et puis, avec des hurlements de haine et de rejet, dans une grande solitude, il portait sa croix sur la Golgothe. Et puis, pendant des heures, il agonisait. Ben oui, mais il y a des personnes qui vivent la même chose, hein. Chaque année, il y a des millions et des millions de personnes qui agonisent pendant des jours, pendant des heures. Donc pourquoi ce geste de Jésus était tellement fort? Et pourquoi je me permets de dire que Jésus a toujours souffert beaucoup plus que toutes les personnes qui souffrent maintenant sur la terre? Pourquoi? Parce que, à part sa souffrance physique, que nous pouvons observer et mesurer, il y avait une souffrance du Sauveur, du Messie, une souffrance spirituelle. Et comment comprendre cette souffrance? Moi, je suis absolument persuadé que, en étant sur la croix, Jésus a vécu toutes les souffrances du monde. Mais il a vécu aussi tous les péchés du monde. Il a vécu les résultats de mes péchés, de ce que j'ai déjà fait, de toutes les petites bêtises que je pouvais faire aujourd'hui. Et même sur cette croix, il a déjà vécu les conséquences de tous les péchés que je ferai dans ma vie. Parce que c'était la seule façon pour que je ne meure pas. C'était la seule façon de me libérer vraiment. Et la seule façon de me donner de l'espoir, mais de l'espoir qui donne aussi la vie. Donc, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Vos péchés sont déjà pardonnés. Vos fautes sont déjà effacées. Qu'est-ce que vous voulez faire encore? Bon, vous pouvez aller chercher de l'argent à la banque et le verser sur le compte de votre curé si vous avez encore des doutes. Peut-être que ça donnera encore des résultats. Mais théologiquement, spirituellement, ça n'a pas de sens. Ça fera plaisir, hein, mais ça n'a pas de sens. Parce que vous êtes déjà sauvés. Parce que vos péchés sont déjà pardonnés. Ah oui, il y a une chose à faire. Il faut accueillir ce pardon. Ah ben oui. Parce que parfois, il y avait des jours où mes parents se sont un peu disputés. Il n'était pas possible de se mettre entre eux. Oh non, aucune critique n'était pas possible. Donc si le papa parlait un peu trop fort à maman... Et en étant déjà grand, j'ai essayé de dire « Mais papa, quand même, c'est maman qui dit « Yarek, tais-toi, c'est pas ton affaire. Hein » Et c'était dans l'autre sens, c'était la même chose. Et c'était très beau, merveilleux. Mais donc, il y avait des jours où vraiment des discussions allaient un peu trop loin. Et puis, il y avait un peu de larmes, parce que bon, c'est normal quand on est blessé. Surtout, les dames, elles pleurent. Et c'est une bonne réaction, et juste. Donc, et puis, on attendait... Ça n'a pas duré, ça n'a jamais duré très longtemps. Ce qui était très beau, ça n'a jamais duré que jusqu'au soir. Au plus tard, le soir, les parents... Et c'était toujours comme ça. Ils se réconciliaient entre eux. Mais ce qui était très beau, c'était de voir non seulement la personne qui demandait le pardon, mais la personne qui accueillait le pardon. Le pardon, il faut l'accueillir. Nous avons ce grand privilège, nous les chrétiens, que nous pouvons le faire d'une façon concrète et réelle. Nous pouvons aller voir un prêtre et lui dire « Pardonne-moi mon Père qui est aux cieux, parce que j'ai fait des bêtises. Je veux accueillir ton pardon, je veux accueillir ce pardon que tu m'as déjà offert sur la croix. Je sais que tu as pardonné mes péchés, mais je veux les vivre maintenant. » Et vous savez comment c'est efficace? C'est efficace d'une façon totale, parce que Dieu, il non seulement nous pardonne, mais en nous pardonnant, il oublie. Nos péchés n'existent plus. Donc, parfois j'imagine une situation où je vais voir un de mes collègues, mes confrères prêtres, pour lui demander le pardon, pour faire vivre mon sacrement de la réconciliation, la confession. Donc je fais la confession, tout heureux, je quitte... l'église de mon confrère, hop, malheureusement, ça, un jour ça viendra. J'ai un infarctus, je tombe devant la porte de son église et je meurs. Ben oui, ça arrive. Hein. À nous, ça arrive au moins une fois à chaque personne. Donc voilà, je meurs. Et qu'est-ce qui se passe après? Bien sûr, je ne suis plus là, j'entre dans l'éternité. Après cette confession, qui était peut-être dure, où je devais dire vraiment beaucoup de choses, et je vois Dieu, il dit, oh Yahé, qu'est-ce que je suis heureux de te voir, viens vite, parce que la fête va commencer pour toi maintenant. Aïe, 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 je dis, mais il y a quelques instants, j'ai tout dit, hein. Quoi? Mais tous mes péchés, je t'ai dit, hein. Tu te souviens plus? Mais non!
Quel péché? Qu'est-ce que tu dis? Quelle bêtise? Il n'y a plus de péché. Il n'y a rien. Que je vois quand même. Donc il demande à un archange qu'il ouvre son ordinateur, Yarek Buchholz. Mais non, il n'y a rien. Sa liste est vide. Il n'y a rien. Il y a juste un mot sauvé. Donc voilà, tu peux entrer. C'est comme ça que ça marche. Le pardon de Dieu est efficace. Le pardon de Dieu est réel. Pourquoi? Parce que son Fils a tout donné pour que je puisse vivre d'une façon totale ma liberté de l'enfant de Dieu. Voilà. C'est ça le message de notre soirée. Et c'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, c'est pourquoi que Jésus est mort sur la croix. C'est pour que nous puissions nous annoncer la plus grande bonne nouvelle. Nous sommes sauvés. Merci.